Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on enchaîne avec une grande thématique immobilière sur laquelle on va passer un moment. D'abord avec Louis Duclary, bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous, cofondateur d'enchèresimmo.com. D'abord peut-être un petit mot sur Enchèresimmo, sur ce que vous proposez finalement.
Yes, alors Enchèresimmo c'est une plateforme que j'ai cofondée il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Et on apporte des services aux professionnels de l'immobilier, donc essentiellement des agents immobiliers, pour leur permettre de commercialiser des biens sous format d'enchères en ligne, qu'on a appelé des ventes interactives. On n'est pas sur un format d'adjudication, on est vraiment sur un format d'appel d'offres. Et pour donner quelques chiffres, on a réalisé un peu plus de 3000 ventes sur la plateforme sur les 3 dernières années, évidemment avec une croissance tout au long de ce temps-là. Et on travaille aujourd'hui avec un peu plus de 500 agences en France.
Mais c'est-à-dire que concrètement, je veux acheter un appartement, qu'est-ce qui va se passer ?
Concrètement, si vous voulez acheter un appartement, vous allez voir une pub, une annonce sur les plateformes que vous connaissez.
D'accord.
Ou en vitrine. Vous pourrez contacter le professionnel et simplement l'appartement, au lieu, disons, allez, je vais prendre les chiffres moyens français, au lieu qu'il soit diffusé à 250 000 euros, ce qui correspondra aux attentes du vendeur et à une vente classique pour faire un deal, peut-être qu'il sera diffusé à 200, 210, dans ce qu'on appellera un prix de première offre possible, qui permettra ensuite de monter un appel d'offres dessus. D'accord. Le gros intérêt aujourd'hui de cette méthode-là, surtout d'aller pouvoir permettre d'aller trouver et retrouver de l'attractivité sur les biens, puisque la dette diffusée à 250, il sera diffusé à 210 et on crée un appel d'air.
Voilà donc un petit peu le cadre posé et on va bénéficier du coup de votre expertise de ce marché immobilier. Période de rentrée, après l'été, tout le monde repart un peu, se dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, pas grand-chose un petit peu. Vous le voyez comment ? On commence à avoir une grande partie de l'année qui est passée, donc on a l'habitude de se dire tiens, est-ce qu'on va faire 600 000, 700 000, 800 000, 1 million de transactions dans l'année ? Enfin, vous voyez ça comment ? Le dynamisme du marché, la question des prix, enfin, il y a pas mal de choses, hein. On va parler de taux aussi, mais enfin, déjà le marché, la température, l'humeur, vous la sentez comment ?
L'humeur, en fait, aujourd'hui, il y a des forces un peu contraires qui vont s'opposer. En effet, on voit les taux qui, la baisse se maintient de façon assez régulière. Donc, ça aurait tendance à donner finalement envie au marché de reprendre, puisque ça permet aux acquéreurs de pouvoir se financer, etc. etc. Maintenant, il y a un enjeu de confiance aussi, évidemment. Et l'immobilier, c'est quand même pas mal de confiance. Quand on achète, on s'endette sur plusieurs dizaines d'années. Et la question est de se dire, est-ce que j'achète ou est-ce que je loue ? Donc, finalement... Ces deux forces-là, pour le moment, s'opposent. Maintenant, on voit finalement une forme de stabilisation qui, peut-être, est un début de reprise. Mais voilà, en ce mois de septembre.
Et justement, vous avez évoqué la baisse des taux. On a vu la Banque Centrale Européenne, la Fed, qui devrait emboîter le pas sous peu. C'est vraiment un point positif pour le marché immobilier de voir, ça y est, les taux qui redescendent et le corollaire qui va, les banques, l'apport personnel, enfin, c'est-à-dire c'est un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place après avoir peut-être pas été l'inverse, mais pas loin.
En tout cas, ce sont des paramètres qui effectivement tendent à un cercle plutôt positif pour le marché. Faut quand même rappeler que globalement, dans l'ancien, il y a entre 25 et 30% des transactions qui sont aussi faites par des investisseurs. Donc les taux ont un impact direct parce qu'en fait, si les taux sont trop élevés, ils n'investissent pas, ils font autre chose, ils arbitrent. Donc, pour l'investissement, c'est pas mal. Ça, c'est quand même un début de renouveau. Et pour l'épargnant qui achète pour lui, finalement, pour y vivre, il y a aussi un enjeu. C'est effectivement, on était plutôt dans l'attentisme, et on l'est toujours d'ailleurs, côté acquéreur, côté vendeur aussi. Et ces mouvements, finalement, ont peut-être relancé un peu la machine et le volume, ce qui serait bon finalement pour tout le marché.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu le cycle économique. Qui a joué son rôle, et ça a été important. Il y a eu les banques centrales qui ont remonté les taux, etc., pour essayer de lutter contre l'inflation. Du coup, ça a un peu crispé le marché, etc. Mais il y a aussi le politique de l'autre côté. Et en France, ils n'ont pas été avec la main morte ou avec le dos de la cuillère, parce que on a touché au Pinel, on a touché à tout un tas de leviers qui encadraient, entre guillemets, ce monde immobilier. On pense bien sûr au HCSF, etc. Et là, autant le cycle économique, il a l'air d'être géré par les banques centrales et on vient d'en parler, autant les politiques, on a l'impression qu'ils n'ont pas bien pris la mesure. Allez, on va prendre un mot un peu populaire, mais de la panade dans laquelle est le marché immobilier, le marché du logement.
En effet, en tout cas, ils en ont peut-être pris la mesure, mais ils n'ont pas mis en place quelconque mesure pour le moment. Donc effectivement, il y a, je pense, aussi un peu d'attente. Point de vue du politique pour proposer les choses. Alors, je pense qu'il y a aussi un facteur qui est que le marché doit être capable aussi de se relancer par lui-même. Finalement, à un moment donné, on ne peut pas toujours attendre du politique qui vienne avec la lance incendie. Mais effectivement, parfois, on peut aussi dire qu'on ne proposera rien et ça acte les choses plutôt que de laisser un peu le flou.
Oui, bon, on va voir hein, voilà. ce que le nouveau gouvernement viendra peut-être poser ou pas sur la table. Disons un petit mot des prix. Il y a toujours la question de se dire, est-ce qu'on est dans un marché de vendeurs, dans un marché d'acquéreurs, etc. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les vendeurs, qui étaient un peu timides, on va dire, enfin en tout cas qui n'ont pas voulu trop lâcher sur les prix, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils se disent, bah, j'ai eu raison, et finalement les prix vont remonter? Ou alors, est-ce que les acquéreurs peuvent garder la main?
Finalement, c'est encore deux forces qui s'opposent, puisqu'il y en a un qui veut tendre à vendre au mieux pour lui et l'autre qui veut acheter pas trop cher. Maintenant, nous, ce qu'on voit, justement, c'est un petit peu tout le sujet d'un indice qu'on sort maintenant depuis le début de l'année qui s'appelle GAPI, donc le Gap Index. C'est d'essayer d'aller via toutes les données qu'on a sur Enchères Immo. On va avoir, si vous voulez, les attentes du vendeur, l'estimation du professionnel et la meilleure offre sur chaque enchère. Et cet indice, l'intérêt de cet indice, c'est d'aller suivre ça mois par mois. Et ce qu'on voit, finalement, c'est que si on reprend un petit peu de chiffres sur l'année dernière, en octobre dernier, on avait 11% d'écart entre vendeurs et acquéreurs, ce qui est énorme. Globalement, quand on a 11% en moyenne, on ne peut pas s'attendre à beaucoup de transactions parce que ouais. Les discussions sont très difficiles. On se maintient maintenant depuis avril autour des 7%, ce qui est plutôt bon signe puisque généralement, quand on parle de négociation, une négociation de 5%, ça se fait bien. Et ce qu'on voit, c'est assez intéressant. Et surtout maintenant, si on essaie de positionner le professionnel au milieu de tout ça, on voit que les vendeurs ont eu tendance à se rapprocher de l'estimation, ce qui était plutôt bon pour relancer le marché, puisque ça veut dire que derrière, ils sont alignés. Et dernièrement, on voit plutôt les vendeurs qui repartent légèrement à la hausse et les acquéreurs qui se rapprochent de l'estimation. Donc, c'est aussi peut-être le fait que le professionnel navigue. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a une vraie prise de conscience des professionnels du marché réel. Et le marché réel, finalement, c'est les offres, c'est l'acquéreur. Et maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut réussir toujours à convaincre ces vendeurs finalement d'aller dans le sens du marché, puisque soit ils vendent pas, soit forcément il faut regarder ce que sont prêts à déposer les acquéreurs. Et aujourd'hui, c'est un peu tout le risque finalement aussi de cette baisse des taux, c'est que d'un point de vue vendeur, on vous dit les taux baissent. On se dit non mais attendez, moi si le taux baisse, j'ai tant que j'attende quoi, parce que finalement je vais pas baisser mon prix.
Ils vont retrouver de la marge.
Voilà, on va retrouver de la marge. Mais effectivement, c'est pas non plus complètement réenclenché. Donc je pense qu'il faut être à l'écoute, il faut être capable de discuter. Et effectivement, les vendeurs qui ont absolument besoin de vendre, ils vendront. Et ceux qui attendent, peut-être qu'il faut attendre. Mais en soi, on ne sait pas ce que sera fait demain non plus.
Alors aujourd'hui, on va puiser dans votre expérience pour être très, très pratico-pratique. Quel conseil, Louis Duclary, vous donneriez à un épargnant, à un investisseur aujourd'hui sur la problématique immobilière? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre? Enfin voilà, quels deux, trois petits tips que vous auriez envie de confier à un auditeur ce matin?
Finalement, moi, j'essaie quand même de suivre pas mal les annonces, les grands sites d'annonces pour voir quelles sont, sur certaines typologies de biens bien précises, l'évolution. Et j'ai le sentiment quand même qu'il y a un intérêt en ce moment de regarder quand même, puisque les taux sont quand même plutôt, commencent à être un peu mieux, enfin, plus en plus favorables finalement aux acquéreurs. Et on a encore des vendeurs qui sont à l'écoute. Hein. Le marché n'est pas non plus comme il y a 4-5 ans où ça se vendait en claquant des doigts. Donc, si on est prêt à négocier, à essayer de faire au mieux pour faire une vente et aussi surtout pas se priver de regarder les biens où il y aurait un peu de travaux. Parce que finalement, c'est sur ces biens-là qu'on peut négocier au mieux. Évidemment, le premium du premium, ça se vend, il n'y a pas de sujet.
Oui, bien sûr.
Mais il ne faut peut-être pas avoir peur justement de se projeter, de vouloir faire un peu de travaux, etc., ce qui souvent est bloquant. Et c'est là qu'on peut faire des choses intéressantes.
Mais le mode d'emploi, c'est toujours de sécuriser son financement, de savoir un petit peu quelle est sa capacité avant même de se mettre à rêver sur un bien.
On peut rêver, il n'y a aucun problème.
C'est sûr, rêver, c'est gratuit, rêver. Oui, on est d'accord.
Il faut rêver, c'est gratuit, c'est génial.
On n'ira pas forcément loin.
Maintenant, effectivement, quand on veut vraiment s'y mettre, c'est quand même bien d'avoir sécurisé avec un courtier, un banquier, peu importe, savoir où est-ce qu'on peut aller. Et à ce moment-là, on peut commencer à discuter, quitte à négocier. Mais je pense que c'est quand même le bon sens.
Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Donc,
Louis Duclary, cofondateur de enchèresimmo.com.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.